Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Et s'il était le dernier des saltimbanques ? Le dernier d'une dynastie sans couronne, libertaire, flamboyant, excessif, généreux, sanguin, libre. Eh oui, Patrick Sébastien publie chez Ixo un livre aussi savoureux que consolant, truffé de répliques à rendre jaloux Audiard ou Frédéric Dard. Il a pour titre « J'ai déplacé l'éléphant ». Et justement, après les orages de l'année dernière, eh bien c'est l'occasion de demander à celui dont la diffusion du dernier réveillon avec le plus grand cabaret a été regardée sur TV5 Monde par 70 millions de téléspectateurs, eh bien c'est l'occasion de lui demander si réellement il est parvenu à déplacer l'éléphant.
Europe 1.
Bonjour.
Bonjour Isabelle, ça me fait drôle de t'appeler Isabelle.
Allez, bon, on va rester sur le Isabelle.
On se connaît tellement, on
depuis
a tellement
des siècles.
Partagé de belles choses ensemble, la belle aventure à la télé.
Voilà. Mais Alors l'éléphant,
je t'explique ce que c'est d'abord, pourquoi ça s'appelle comme
ça. Dis-nous.
Parce qu'un soir, j'étais dans un hôtel et, entre deux galas, et il y avait un mariage à côté. Et il y a une dame, j'ai fumé une clope dehors, il y a une dame qui est venue qui me dit « Vous ne voulez pas venir chanter un truc pour les gens dans le mariage ?» Je dis « Mais avec plaisir !» Et donc j'ai sympathisé avec ces gens. Et puis il y avait un jeune couple qui était là. Et la fille, on a commencé à parler de phrases, de jolies phrases. C'était des toubibs. Et la fille m'a dit « Je vais t'en donner une phrase. » C'est un proverbe indien qui dit « Si tu vois tout en gris, déplace l'éléphant. » Et j'ai trouvé ça tellement chouette. Je dis « Putain, mais qu'est-ce que c'est beau ce truc !» Parce que ça a correspondu à une période, effectivement, où il n'y avait plus la télé. Donc c'était un peu gris, tu vois. Et je me suis dit, faut pas s'apitoyer, faut déplacer l'éléphant, faut remettre de la couleur derrière. Alors c'est lourd à déplacer un éléphant, mais j'ai déplacé.
Tu l'as déplacé. Alors, justement, évoquons cette période, Patrick Sébastien. Ouais. 14 mois se sont écoulés depuis la diffusion, le 11 mai 2019, mais oui, sur France 2, du dernier numéro des Années Bonheur. 14 mois, c'est à la fois court et c'est à la fois une éternité dans le monde de la télé. 14 mois, c'était tout à l'heure ou bien cette vie-là?
Ah non, cette vie-là, elle est finie.
Elle est lointaine.
Ah non, elle est lointaine, c'est fini, c'est terminé. C'est le deuil a été un petit peu difficile. C'est pas tellement sur le fait d'arrêter, parce que de toute façon, j'aurais tenu un an ou deux ans de plus, histoire de terminer l'histoire. Mais c'est la manière qui était immonde. Il m'a même pas parlé. Et puis, il n'y a pas de raison, surtout. Il y avait juste que je ne plaisais pas à trois personnes qui décident à la place des autres. C'est un service public, donc normalement, on doit être au service du public. Et puis moi, donc, ça n'allait pas. Donc, c'est pas très grave dans la mesure où, d'abord, j'ai retrouvé une liberté que je n'avais plus. J'ai passé à la télé, moi, 30 ans extraordinaires, avec des tirages, avec des machins. J'étais sur téléphone, c'était pas simple. Mais on avait quand même une liberté d'artiste. Je sais que quand j'ai amené le plus grand cabaret du monde, il n'y a personne qui m'a dit de faire un pilote et qui a regardé mon émission pour me dire « il faut faire ça, il faut faire ça », ils m'ont fait confiance. Quand j'ai fait de l'autre côté du miroir, c'était Bigot, mais j'avais des mecs formidables. Yves Bigot, c'était un type à qui je dois beaucoup. Il m'a laissé faire ce que je voulais. Là, les 4 dernières années, c'est un enfer, ce qu'on a vécu. C'est-à-dire que c'est plus une télé faite pour les artistes. Moi, je vois les animateurs qu'il y a. Il faut dire ce qu'il faut dire, quoi. Et puis, c'est les champions de...
Ils sont le doigt sur la couture du pantalon, c'est ça ?
Plus que ça, plus que ça. C'est-à-dire qu'il faut surtout faire la petite phrase par rapport à la bonne cause. Alors, un jour, ils prennent les enfants malades, un jour, ils prennent les femmes. Parce qu'il faut faire voir qu'on est très gentil.
Alors, l'éviction, ça y est, on en a parlé, mais
ouais,
depuis 14 mois, Patrick, justement, depuis 14 mois, je ne sais plus si je dis vous, si je dis tu, allez, normalement, bon, on veut dire tu.
Non,
tu as fait beaucoup de scènes, une pièce de théâtre à la manière de Pagnol, donc Le secret des cigales, un spectacle très intime baptisé Avant que j'oublie. Tu as sorti un album de chansons réalistes intitulé Entre nous, tu as donc tourné à travers toute la France, comme tu le faisais voilà, à l'époque du plus grand cabaret ou des Années Bonheur, mais qu'est-ce que... Au cours de ces 14 derniers mois, tu as fait que tu n'as jamais auparavant, dans ta vie d'avant, celle où tu étais l'empereur de la télé populaire, fait.
Ah non,
soudain,
non, j'ai,
tu t'es octroyé,
à part,
quelle folie.
À part, tu te rappelles, bon, t'as travaillé avec moi, tu le sais, animateur, c'était le plus petit de mes métiers, c'était surtout producteur, fabriqué. C'est ce qui me manque le plus. Et ce qui me manque le plus, c'est de faire travailler mes musiciens. C'est l'ambiance qu'il y avait dans les Années Bonheur, c'est de recevoir des gens que j'ai aimés, c'est de donner leur chance à des artistes, tu vois. C'est de le cabaret, j'étais à la fois producteur, mais spectateur. J'étais content de voir ces mecs, d'avoir ce rendez-vous mensuel où je voyais arriver des artistes de partout. Là-dessus, je suis privé, je suis frustré évidemment là-dessus. Mais sur le reste, c'est la liberté. Là, je suis en train de faire un album, je me régale, ça s'appelle On dégoupille, et il y a des chansons dedans que je pourrais pas faire à la télé, mais que les gens qui m'aiment bien vont adorer. J'ai une chanson qui s'appelle Vive le cul, vive le culturel. À la Pierre Perret, ça pourrait pas passer.
Eh bien, nous y sommes. Voilà. Bon, pour parler de la télé, Patrick. Bon, tout le monde constate que les jeunes aujourd'hui ne regardent plus la télé. Et que même, d'ailleurs, le septuagénaire regarde Netflix. Les programmes de télé que tu as fabriqués donc, pendant 35 ans n'existent plus dans le poste. Elle a disparu totalement, cette télé-là.
C'est parce qu'on a changé d'époque. C'est peut-être que c'est plus l'époque non plus aussi. La nouvelle télévision que je vois, moi, c'est une télévision de rentabilité d'abord. C'est d'abord une télévision de rentabilité, parce qu'il ne faut pas se bourrer. Même quand Yann Barthès il donne des conseils de morale, il fait d'abord de la télé pour gagner de la thune, ne vous inquiétez pas. Il ne faut pas se leurrer. Hein. Et les émissions, je sais que Nagui doit enregistrer, je sais pas, des fois 10-12 émissions dans la journée. C'est de la rentabilité. C'est de la rentabilité, puis c'est des débats où il y a 6 personnes autour d'une table, parce que ça ne coûte rien. Quand on faisait nos émissions, moi, pour faire venir des mecs dans le cabaret, il faut payer les voyages, il faut payer les artistes, il faut payer le transport, c'est des frais. Et cette télé-là, elle est devenue économique. Moi, je crache pas dessus. Hein. Je regarde des choses en plus. Moi, je regarde mon copain Reichmann. Mmh. J'adore ce jeu-là, les 12 coups de midi, j'adore ça. Je regarde des trucs sur Arte qui sont formidables. Je regarde du sport quand il y en a. Malheureusement, en ce moment, il n'y en a pas. Mais le reste du temps, effectivement, je suis sur Netflix.
Alors, parlons des artistes. Tu aimes répéter, Patrick, qu'un artiste qui n'est pas généreux ne dure pas longtemps. Mais tu sais très bien que, en fait, c'est pas le public qui décide de l'exposition d'un artiste, ce sont les décisionnaires dans les chaînes de télé, les maisons de disques, les médias qui font ou défont une carrière. Ça n'a rien à voir avec les audiences réalisées.
Non, c'est le public qui
choisit. Ventes de disques, le public, si on l'avertit et si on lui donne à voir.
Bah, il faut qu'il le
sache. L'affection que le public peut avoir pour un artiste dont il perçoit la générosité ne fait pas forcément que l'artiste, en fait, reste sur scène ou dans le poste.
Il y a plein de gens qui ont fait des carrières sans passer à la télé. Hein. Mais c'est vrai que il y a le savoir-faire, il y a le faire savoir. Si tu t'exposes pas, moi je te cache pas que faire de la promo pour mes trucs, c'est pas du tout ce que je préfère dans mon métier. Mais je suis obligé de m'exposer. C'est ce qui me manque aussi à la télé, c'est la vitrine. Il faut que je trouve une vitrine pour faire savoir aux gens que j'ai fait ça, ça, ça ou ça. Donc il faut faire quelques concessions là-dessus. Mais le problème des disques, oui, là, tu vois par exemple, je fais un disque en ce moment. C'est moi qui paye, c'est moi qui investis, c'est pas une maison de disques, parce que les disques ne se vendent plus vraiment en physique. On met ça sur Deezer, là, le premier titre qui s'appelle On dégoupille, c'est une autre manière de faire des chansons, comme il y a d'autres manières de faire de la télé, il y a les réseaux sociaux. Le problème, c'est que c'est devenu un petit peu n'importe quoi, parce que tout le monde a sa chaîne, a son machin. On est submergé d'images.
Tu as ta chaîne YouTube ?
Oui, je l'ai, ça marche très bien. On a 1 200 000 abonnés. Auquel j'essaie de donner des choses de temps en temps. Je m'en sers évidemment parce que c'est le lien qui me reste avec les gens. Après, le meilleur lien, même si c'est devant 30 personnes, moi j'ai besoin de monter sur scène. Donc en ce moment, je suis très frustré.
Dans l'introduction de ton nouveau livre, intitulé « J'ai déplacé l'éléphant » et qui paraît chez Ixo, tu évoques une réflexion de Frédéric Dard dont tu as fait ta devise.
Oui.
« Ma vie m'aura servi de leçon, je recommencerai plus jamais. »
La phrase exacte, c'est « Je suis un vieux fœtus blasé, ma vie m'aura servi de leçon, je recommencerai plus jamais. »
Bon, c'est une phrase d'auteur magnifique, pourtant. Ouais. Tu n'as qu'une envie, recommencer.
Non, si je crève demain matin, je ne suis pas fâché parce que c'était bien, parce qu'on a fait un beau voyage, parce que parti d'où je suis parti, je regardais... Moi, j'ai jamais décollé d'abord de mon enfance, et puis j'ai jamais décollé des premiers jours où je suis parti de Brive, où j'étais encore à Brive, que je savais pas du tout ce que j'allais faire, et que j'écoutais les gens j'ai dû t'écouter toi, où c'était juste en même temps, où j'écoutais Sheila, j'écoutais Sardou, j'écoutais tout ça. Et mon bonheur, ça a été de rencontrer ces gens et d'en faire des amis. Rien que ça, rien que pour ça, le voyage, il est magnifique. Quand t'arrives à Paris, sur un quai de gare, en 74, que t'as pas une thune, que tu connais personne, et que tu vois là où je suis aujourd'hui, mais c'est miraculeux pour un mec comme moi, parce que je connais mes qualités, mais je sais de quoi je suis capable et de quoi je suis pas capable. C'est totalement miraculeux ce qui s'est passé.
Et c'est le formidable voyage... parce qu'il nous parle comme si le voyage justement était interrompu. Loin de là, je sais qu'il fourmille de projets.
Ouais,
alors on fait
derrière.
Une pause, Patrick, certainement pas, c'est devant. On fait une pause et on se retrouve tout de suite avec Patrick Sébastien, avec qui cet après-midi on prend le large.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 15h, 16h sur Europe 1. Europe 1.
Jusqu'à 16h, vous écoutez Il n'y a pas qu'une vie dans la vie avec Isabelle Morizet et son invité. Aujourd'hui, un marchand de bonheur.
Les marchands de bonheur sont rarement les plus heureux. Ah, je sais pas.
Malheureux. Hein, je suis pas malheureux.
Il est pas malheureux, mais quand même, il faut creuser. Allez, la formule est à nuancer. Je reçois cet après-midi Patrick Sébastien qui fait paraître chez IXO.
J'ai rarement été aussi heureux d'ailleurs.
Déplacer l'éléphant. Alors, cher Patrick, pourquoi ta maman, jusqu'à son dernier souffle, a-t-elle refusé en fait d'évoquer vraiment ton père ?
Elle n'a pas refusé d'évoquer vraiment. En fait, alors par contre, je fais une petite parenthèse. Si vous allez sur Wikipédia, ils ont marqué que mon père, je l'avais connu en majorité, qu'il était curé en Corse. Je ne sais pas quel est l'abruti qui est allé chercher que j'avais un père curé en Corse.
Parce que ça te ressemble bien.
Voilà. Faut vraiment, faut qu'on m'explique un jour comment. Non, en fait, dans mon village, ma naissance, elle est compliquée parce que c'est une jeune femme de 17 ans qui se fait plaisir. Et moi, ce que j'en ai su dès que j'ai eu l'âge de 4-5 ans, qu'on m'a expliqué, on m'a dit, voilà, ton père, c'est le boucher du village. Et il n'a pas voulu te reconnaître. Ma mère m'a... Et elle n'est jamais, jamais revenue sur ça. Mais il y a un doute. Il y a un doute parce que c'est peut-être pas lui. Parce que je l'ai rencontré, je lui ai adressé la parole le jour de mes 37... Pas le jour. À une occasion terrible. C'était pour l'enterrement de mon fils. Qui donc, si c'était mon père, était son petit-fils. Et j'ai remonté les rues du village et j'avais dit à ma mère, si je le vois, je vais lui parler. Juste avant l'enterrement de mon fils. La journée a été très, très chargée. Ça, je peux te dire que la journée, ça a été d'une violence extrême, puisque juste avant d'enterrer mon fils, j'ai donc rencontré celui qui était censé être mon père, et je lui parlais pour la première fois en lui disant « c'est toi ». Il m'a dit « non, c'est pas moi ». Voilà. Donc, ça a été... Voilà, j'ai perdu mon père, mon fils, dans la même journée, et même une jeune fille avec qui j'étais... très lié, qui avait été mon plus gros chagrin d'amour, et que ce soir-là m'a dit, oh, finalement, j'aurais pas dû partir. Donc j'ai dit, c'est bon, pour la journée, ça va aller, là. Tu vois, j'ai perdu mon père, j'ai perdu mon fils, et je me perds ça. Enfin, c'était le 18 juillet 1990. Donc c'est des dates qui... D'ailleurs, je suis un peu ému en ce moment, et c'est une période un peu difficile, parce que le 14 juillet, ça va faire 30 ans pile. Que mon fils est parti. Et ça me fait tout bizarre, parce que c'est passé tellement vite. Et ces histoires de paternité, de tout ça, c'est ma chance, en fait. Parce que si ce père m'avait reconnu, je ne serais pas allé chercher la reconnaissance sur scène.
C'est justement, très simple. Dans la campagne des années 50 et 60, grandir en étant de père inconnu, ça signifiait grandir avec le statut de bâtard.
Ah ouais.
Le mot en lui-même est sauvage et barbare.
Ouais, parce qu'on l'a voulu comme ça. Moi, c'est une fierté pour moi. En plus, c'est un très bon pain, le bâtard. C'est le son. Il y en a qui en ont fait quelque chose de pessimiste. Moi, pour moi, c'est pas du tout. Ma fille aussi, elle est bâtarde quelque part, puisque je l'ai adoptée, qu'elle connaît pas son géniteur. Il y a une différence fondamentale entre le géniteur et le père. Dans une chanson, je parle du mien. Je dis, c'est pas lui qui m'a semé, mais c'est celui qui m'a récolté. Et celui qui récolte, c'est le plus important, c'est très important. Le père, il dit, le père, c'est celui qui aime.
Alors, tu parles du père, évoquons la maman. Tu l'as décrit comme flamboyante, avec un bon sens populaire hors du commun, dévergondée, dis-tu, libertaire.
Bien sûr.
Surtout libertaire, et alors avec un sens des répliques à la Audiard. Parce que tout de même, une mère capable de dire à son fils « te prive jamais de faire des conneries, une vie sans conneries, c'est comme le gigot sans ail, ça nourrit, mais ça régale pas. »
C'est du Audiard.
Mais c'est génial. Cette mère-là dessine forcément devant son fils, en fait, le chemin de tous les possibles.
Ben oui, mais parce que ma mère, elle a du bon sens. Et elle a le bon sens des gens de peu. C'est-à-dire des filles de... Moi, je la voyais qu'à plus tard, quand elle me disait, je les vois se plaindre, les filles. Elle partait le matin, enceinte, prête à accoucher. Elle faisait 22 bornes en vélo pour aller soulever des tonnes de pommes dans une usine. Avec un patron qui lui disait « casse-toi, va accoucher ». C'est des gens de sueur, c'est des gens de travail, c'est des gens de valeur qui, effectivement, les villages de l'époque, c'était pas compliqué. Il y avait le boulot et le plaisir. Et le plaisir, c'était quoi ? C'était picoler, chanter, danser quand on pouvait au bal et baiser. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Aujourd'hui, on va dire « Ah non, mon Dieu, vous vous rendez compte ?» Mais non, mais c'était le quotidien. Il y avait une espèce de... un genre de... je vais le mettre entre parenthèses, prostitution. Moi, je sais qu'il y a des mamies qui se faisaient prendre sur la table de la cuisine par le boucher qui faisait sa tournée juste pour payer un steak à leurs enfants. C'est des choses qui ont existé, ça. J'ai connu ce genre de choses-là. Et après, le bon sens de ma mère, où elle m'a toujours dit... Bats-toi pour être le deuxième et pas le premier. Parce que deuxième, tu auras toujours une marche à monter. Et ça, c'est l'espoir. C'est toujours avoir quelque chose à conquérir. Et j'ai trouvé ça magnifique, ça, de vouloir, de dire à son fils, je veux pas que tu sois le premier, je veux que tu sois le deuxième, pour qu'il te reste du rêve.
Alors, ce bon sens populaire dont on parle, il m'amène en fait à cette citation de Frédéric Dard, que j'ai picorée dans ton livre. Mmh. Dard qui dit, c'est avec les gens intelligents qu'on déconne
qui
le mieux.
Parce que toutes les répliques qui sont dedans, c'est des répliques que j'ai entendues.
Voilà.
Elles ont été reprises par la suite. Oui, c'est
vrai. Mais alors, cette réplique-là, justement, toute ta vie, tu l'as vérifiée. C'est avec les gens intelligents qu'on déconne le mieux.
On déconne aussi avec des imbéciles, mais c'est avec les gens de la même manière que moi qui suis un homme à femme, tu t'éclates 10 fois plus sexuellement avec une jeune fille intelligente qu'avec une idiote. Et puis l'intelligence, c'est la compréhension des choses. Les gens confondent l'intelligence et la culture. Il y a des gens qui sont bardés de diplômes, qui sont persuadés, c'est bien le drame de notre société, ils sont persuadés d'avoir la vérité. Comme je te disais, c'est Coluche qui disait si on leur donne le Sahara, il va falloir acheter du sable ailleurs. Dans le Covid, on en a eu plein des comme ça. La logique, elle est comme ça. Et puis, mais la réalité, elle est tout autre.
Alors, revenons, Patrick Sébastien, à cette éducation libertaire. Il faut avoir sacrément confiance en son...
Attention, libertaire, oui, mais... sévère.
Sévère, voilà, mais tout de même, parce que on vient d'évoquer cette réflexion de ta maman, il faut avoir sacrément confiance en son fils quand même pour l'inviter à ne jamais se priver de faire des conneries. Jusqu'où as-tu failli aller trop loin ?
Non, c'est pas ça, c'est que j'avais un mélange de rigueur énorme. Moi, j'ai pris des tartes parce que je mettais les coudes sur la table. Par mon père, mais pas des trucs méchants, hein. Mets pas tes coudes sur la table, marche pas avec les pieds en dedans, tu vois, c'était aussi bête que ça. Et en même temps, ma mère me poussait à bosser. Et en même temps, quand j'avais 14 ans, ma mère, elle avait des copines qui avaient 30 balais. Je disais, maman, tu peux pas m'arranger le coup avec elle? Si. Si, si. Moi, les premières nanas avec qui j'ai été, c'est des copines à ma mère. Où ma mère m'avait arrangé le coup, hein. Mais c'était pas, on a toujours été très pudiques, on n'a jamais parlé de cul, tous les deux. Mais c'était, sois libre, profite de la vie. Profite. Profite parce que ça passe trop vite.
Ta maman avait 17 ans lorsque tu es né. Tu avais 17 ans lorsqu'est né ton fils. Donc le timing te semblait normal. 34 ans grand-père.
Oui, mais parce que l'époque était aussi à ça. Aujourd'hui, ils attendent plus parce que aujourd'hui, je vois les mômes là qui sont autour de moi, même mes enfants. C'est on va d'abord faire carrière. On va d'abord, la plupart des mômes d'aujourd'hui, d'ailleurs, ça a beaucoup reculé l'âge où on fait des enfants. Parce qu'ils font des enfants dans un planning. On va faire d'abord le boulot, ce qui est aussi logique parce que la vie est devenue beaucoup plus difficile. C'est pas qu'on avait moins, c'est qu'on avait moins de frais. Aujourd'hui, les mômes se rendent pas compte. Moi, je sais que quand j'avais 18 ans, pour sortir un samedi soir, ça nous coûtait pas des masses. Tu veux sortir un samedi soir aujourd'hui, aller dans un restaurant, aller en boîte, l'essence, le machette, mais ça coûte un bras, c'est impossible. C'est ce qui déclenche plein de trucs d'ailleurs. Très étrange. Les mômes, ils prennent de l'ecstasy parce que ça coûte moins cher que de boire 3 mojitos. Ça va plus vite. L'argent est très important. L'argent, les moyens sont très importants.
À 17, 18 ans, alors que tu étais chef de famille, tu savais que tu n'allais pas t'éterniser en Corrèze? Tu rêvais de quelle vie?
Non, à 16 ans, quand je me marie à 16 ans, je sais une chose déjà, c'est que je veux dépendre de personne. C'est-à-dire que je veux assumer, moi, mon couple, j'ai choisi mon truc, je vais assumer ma femme et mon enfant. Et tout de suite, j'ai bossé, je fais continuer mes études de lettres parce qu'il fallait, mais j'ai
Université
bossé,
de Limoges.
Ouais, et j'ai bossé, je fais plein de boulot pour nourrir ma famille. Je tenais absolument à nourrir ma famille. J'avais mon petit appartement, et ce qui était marrant, c'est que je pensais que ma vie était terminée, quoi, que ça s'arrêterait là. C'est ça qui était marrant. C'est que j'imaginais pas, mais le millième de ce qui s'est passé après. Pour moi, c'était la pêche le dimanche, le rugby, ma femme, mon gamin.
Eh bien non, ce ne fut pas ça.
C'était il y a 50 ans.
On fait une pause et on continue de dérouler le fil cet après-midi avec Patrick Sébastien. À tout de suite.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. La suite sur Europe 1 cet après-midi. L'invité d'Isabelle Morizet est un grand ami de Fabien Lecoeuvre qu'on retrouvera un petit peu avant 19h aux côtés de Wanny Bouchard pour sa chronique Une chanson dans la tête.
On prend le large cet après-midi en compagnie de Patrick Sébastien. Patrick, est-il vrai que tu as échoué au concours d'inspecteur de police à un point, ridicule petit point qui aurait complètement changé l'histoire?
C'était pas par vocation, c'était tout simplement qu'il fallait que je bouffe. Tu sais, moi depuis l'âge de 16 ans, j'ai assumé d'abord ma vie et celle des autres. J'ai jamais eu quelqu'un au-dessus de moi. J'ai nourri tout le monde. Je nourris tout le monde depuis l'âge de 16 ans. Et il fallait que je bouffe. Donc, je joue au rugby, donc il y avait un commissaire qui était très bien branché avec l'équipe de France de la police. Oui. Et il m'a dit, si tu passes ton concours, tu le réussis, tu vas te planquer, tu vas avoir un salaire qui va tomber tous les mois et tu pourras jouer dans l'équipe de France de la police. C'est uniquement la raison pour laquelle j'ai passé le concours.
Pas parce que tu avais envie de jouer les Maigret ou les Serpico.
Du tout. D'ailleurs, je pense que j'aurais été un ripou. Mais... Et j'ai raté d'un point. Je me rappelle très bien de soir où j'ai appris ça. Je dis, putain, quelle catastrophe. Alors que c'est peut-être un des plus beaux cadeaux de ma vie. J'ai raté d'un point. Avec un petit détail que je raconte dans le bouquin.
Lequel?
Ben, c'est que j'ai eu, au bac, parce que j'étais un très bon élève, que j'ai passé le bac en candidat libre, mais à l'épreuve de français, au bac français, j'ai eu 17 à l'oral, 17 à l'écrit. Et à la dissertation du concours de flic, j'ai eu 3. Donc je me suis dit que c'était pas le même français. Ça devait pas être le même. Mais j'ai rien contre les flics, au contraire. Surtout en ce moment là où c'est quand même assez inadmissible que leur ministre de l'Intérieur les laisse tomber. Mais c'est vrai que c'est... Tu sais, j'ai toujours pensé que tout était écrit. Ce petit point, aussi bien les choses agréables que les choses désagréables, la mort de mon fils, les deuils, le chemin, les parcours, les hasards. Tu sais que je crois beaucoup aux synchronicités, au hasard. Il y en a une qui est pas dans le bouquin, elle est dans d'autres bouquins, mais qui est extraordinaire. C'est le plus grand cabaret du monde, la première qu'on a faite, c'était au Moulin Rouge, qu'on a fait la première du plus grand cabaret du monde. Et le plus grand cabaret du monde, c'était un écho à mon enfance, à la Piste aux Étoiles. Mmh. Et depuis, j'ai appris, par notre ami Fabien Lecoeur, que le contrat de la Piste aux Étoiles a été signé dans les coulisses du Moulin Rouge le jour de ma naissance. C'est pour ça que je pense que tout ça n'est pas... C'est pas des hasards. Le fait que j'atterrisse là aujourd'hui, c'est pas un hasard, c'est un bout de chemin. C'est pour ça que j'ai appris à tout relativiser. La mort qui va venir, elle m'inquiète pas parce qu'elle est programmée. Si elle est programmée dans 2 jours, je pourrais faire ce que je veux, elle sera dans 2 jours. Si elle est programmée dans 20 ans, elle sera dans 20 ans. Je sais pas. Et ça ne me bouge pas plus que ça.
Eh bien, continuons d'évoquer le chemin. Le 14 novembre 1974, donc le jour de tes 21 ans, c'est sur la scène d'un petit cabaret parisien que tu es monté. Le cabaret s'appelait La Main au Panier. Il paraît que ton cachet était de 30 francs.
Ouais.
Est-ce que tu te souviens des sensations, de l'expérience étrange quand même d'entrer comme ça dans la lumière pour la première fois sur une scène officielle parisienne?
Tu peux pas oublier ça. Moi, j'étais arrivé à Paris depuis septembre. C'est une espèce de truc au 6e étage. Je vois les membres qui se plaignent aujourd'hui. Ils parlent de vache enragée. Moi, elle aurait pas pu passer dans le couloir, la vache enragée. J'étais dans un tout petit truc qui faisait, je sais pas, 8 mètres carrés. Et j'y allais en métro, mais je commençais à craquer un peu parce que c'était le jour de mes 21 ans, parce qu'il pleuvait. Et je suis arrivé dans ce... Je connais tout, je me rappelle de tout, mais parfaitement. Je suis arrivé dans ce petit cabaret. J'avais pris la liste sur Periscope, tu sais, puis j'allais voir tout le monde. Je m'étais fait jeter plein de fois déjà, avec un petit numéro d'imitateur. Il y avait un monsieur qui s'appelait...
Jodassin, Bourville.
Ouais, il y avait un monsieur qui s'appelait Jacques Gauthier. C'est un restaurant qui existe encore. Hein. Ça faisait cabaret-restaurant. Il y avait un piano droit d'un côté. Et on se changeait dans les cuisines. Et j'ai fait cette audition à 4h de l'après-midi. Il m'a dit, je t'embauche ce soir. Mais tu peux pas savoir comme j'étais heureux. 30 francs, il faut savoir que le SMIC à l'époque était à 130 000, ouais. Je crois. Ouais. 30 francs, c'était rien. Surtout que si tu ratais le métro, tu es obligé de rentrer en taxi, t'es 30 francs et passer à la trappe. Ça m'est arrivé.
Mais après, il fallait passer des cabarets à la télé. Alors, intégrer le monde de la télé, c'est-à-dire rencontrer ceux qui ont le pouvoir. Donc, à l'époque, c'était Guy Lux, Sophie Darel, présentatrice chez Guy Lux, Drucker, Marie-Thier Gilbert Carpentier, Jacques Martin. Ça a été facile Comment as-tu percé le mur?
Je vais te rappeler des trucs où tu vas te marrer parce que tu connaissais très bien les usages de l'époque. En fait, c'est Sophie Darel qui m'a... Mais en fait, Sophie m'a filé un coup de main. Voilà, je l'avais rencontrée, elle était venue faire une dédicace à Brive à l'époque où j'étais rugbyman encore. Je lui ai fait des imitations, elle m'a dit, si tu montes à Paris, passe me voir, tu vois. Et elle m'a fait faire ma première télé avec Guy Lux. À la sortie de laquelle télé, on m'a dit, tu ne feras plus de télé chez Guy Lux. Alors que ça avait été bien, j'avais fait Jodassin.
Et pour quelle raison?
Eh ben parce que toi, tu vas comprendre, parce que tu connais ce métier. À l'époque, il y avait Lederman qui était dans la salle quand j'ai fait l'imitation. Et comme Lederman s'occupait de Thierry Le Luron,
il s'est dit, aïe, 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 celui-là, il faut l'écarter tout de suite.
Il allait voir Guy Lux, il a dit, celui-là, là, dehors. Et donc, j'ai passé un an sans plus faire de télé. C'était le truc de l'époque. Mais par contre, ce qui était formidable, c'est que tu faisais une télé chez Guy Lux. Tu étais connu de la France entière. Aujourd'hui, il y a des mecs qui ont fait 200 télés, personne ne les connaît. Nous, la chance qu'on avait, c'est que tu faisais une télévision, tu avais des millions de gens qui te regardaient et tu étais connu du jour au lendemain. Moi, j'ai fait mon imitation de Bourville, du jour au lendemain, les gens me connaissaient. Donc, c'était pas terrible, mais c'était agréable.
Alors, ensuite, bon, Tu es devenu producteur, animateur.
Oula, non, mais c'est beaucoup plus tard.
Voilà, plus tard. Mais
entre-temps, le chemin a été très long.
Enfin, tu as commencé quand même à l'âge de 30 ans, donc pas si long que ça.
J'arrive à 21 ans et je fais des galas. Je passe en première partie de Sardou, de Lama, je chante avec toi, je fais des galas avec toi. On fait plein de... Rappelle-toi, il y en avait partout des spectacles. Et les premières télés arrivent en 84, 10 ans pile après, où je fais Carnaval.
Voilà, et à ce moment-là, les gens qui tenaient les rênes donc des chaînes de télé se disent
confiance.
Mais c'est pas possible, il va faire une OPA sur le public populaire, tu commences à faire peur à certains autres
pas
producteurs, animateurs, tu règnes pendant 35 ans sans avoir la carte. Est-ce que tu as cherché à l'avoir à un moment donné de ta carrière ?
Ah non, je veux pas la carte. Je veux pas cette carte-là. Moi, la seule carte qui m'intéresse, c'est le public, parce que c'est fait pour ça. J'ai fait des émissions, effectivement, parfois, c'était grossier, c'était bas de gamme, on n'a pas fait que du bas de gamme. On a créé, surtout, on a inventé. Tu sais, la plupart des émissions qui aujourd'hui à la télé, c'est des adaptations de concepts américains. The Voice, les jeux, tout ça, et le reste, c'est des débats. On n'a rien inventé. Par contre, quand j'invente Sébastien, c'est fou. Qui se cache derrière qui, les déguisements, quand j'invente le grand bluff, quand j'invente de l'autre côté du miroir, quand je décide de faire le plus grand cabaret du monde, alors que les dirigeants de la chaîne à l'époque disent « Mais non, le cirque, ça peut pas marcher, ça intéresse personne. » Et qu'il y a un mec qui me défend, c'est Bigot, en disant « Faites-lui confiance. » C'est ça qui avait bien, c'est « Faites-lui confiance. » En tout cas, je remercierai jamais assez ces gens-là, TF1 et les France 2 d'avant, jusqu'à De Carolis, jusqu'à même Fimelin. De ne pas m'avoir mis de filtre entre ce que je proposais et les gens. C'est les gens qui jugeaient.
On a encore mille choses à se dire. Alors on se retrouve tout de suite avec Patrick Sébastien.
Europe 1. Imitateur, chanteur, producteur, Patrick Sébastien est donc l'invité d'Isabelle Morizet jusqu'à 16h. Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
Patrick Sébastien fait paraître chez XO. J'ai déplacé l'éléphant. Alors Patrick, franchement, il y a une chose qui m'intrigue. Je vais même au-delà, je veux dire, je ne comprends pas. Tel le dernier des Mohicans, il est sans doute le dernier des saltimbanques, tout en fougue, en excès, en générosité. Patrick Sébastien fait paraître chez XO, j'ai déplacé l'éléphant. Alors Patrick, franchement, il y a une chose qui m'intrigue. Je vais même au-delà, je veux dire, je ne comprends pas. Le dernier réveillon que tu as présenté, donc, avec le plus grand cabaret, c'était le 31 décembre 2018. Voilà, en live sur TV5 Monde, a réuni 70 millions de téléspectateurs. C'est gigantesque. Bon, pour faire de la télé, il n'y a pas que le service public en France. Comment expliques-tu que depuis 14 mois, les autres chaînes, c'est-à-dire la 1, la 6, les chaînes de la TNT, comment expliques-tu qu'elles ne t'aient pas sollicité ?
Parce qu'ils sont dans d'autres créneaux. Ils visent une clientèle bien particulière. Ils me l'ont expliqué d'ailleurs qu'il y a 35 ans, que ce sont les fameuses ménagères, etc. Et que je ne suis pas forcément dans le créneau. Et qu'ils veulent renouveler les choses, etc., etc. Après, moi, j'ai vu les audiences. Moi, depuis que je suis parti le samedi soir, les audiences, elles sont en dessous de ce que je faisais. Mais ce n'est même pas une question d'audience, c'est une question de personne. Et ça va même au-delà de ça. Les gens du service public ne veulent pas de mon public. C'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire que c'est comme si à la poste, on leur disait « on ne vous donne pas du courrier à vous parce que vous êtes trop populaire ». Vous êtes trop du peuple, ça ne nous intéresse pas. Nous, on veut donner du courrier aux gens qui ont fait des études ou qui pensent ce qu'on pense. Et la conséquence de ça, ça a l'air d'une goutte d'eau. C'est le bruissement d'ailes du papillon, mais tu l'as dans la rue aujourd'hui. Tous ces gens-là qu'on oublie, qu'on délaisse, qu'on prend pour des cons pour dire les choses par leur nom, ces gens-là, à un moment, ils en ont marre. Et c'est pas fini, ça fait que commencer.
Mais alors, je reviens à toi. La télé, c'est une vitrine qui permet de remplir les salles de spectacle. Ouais. Peut-on continuer longtemps de faire des tournées quand on sort des écrans radars cathodiques et qu'on a un répertoire qui n'est pas programmé en radio, même s'il est archi-populaire ?
Ouais, je pense que sur le souvenir, il y a les réseaux sociaux. Et puis même si ça s'étiole, du moment que t'en as suffisamment pour faire... Tu sais, quand tu fais du théâtre... Tu dépasses rarement les 1000 personnes. Et puis moi, j'ai pas envie de devenir milliardaire. J'ai envie de m'éclater. J'ai envie de jouer. Il m'arrive de jouer dans le café-théâtre de ma copine Coco à Rocamadour. Il y a 100 personnes.
Patrick, découvreur de talent, c'est pas la moindre de tes casquettes.
Ah oui,
en 35 ans de production, tu as révélé au public. Alors, entre autres, c'est pas exhaustif, les Nous c'est Nous avec Jean Dujardin et Bruno Salomon. Tu étais le premier producteur de Danny Boone, d'Albert Dupontel. Tu as découvert Shirley Dino,
Nicolas.
Les Bodins.
Non, j'ai pas découvert les Bodins. J'aurais filé un beaucoup de main.
Voilà.
Mais Nicolas Canteloup, je l'ai produit au
tu
départ.
As pris Bruel pour ta première, ouais, sa j'ai première
même
tournée.
J'ai même eu une petite gamine, 84, à l'Olympia.
Qui s'appelait Céline Dion.
Voilà, à qui j'ai fait faire son premier Olympia, et on est parti au moins en tournée ensemble.
Et tu as fait faire ses premières émissions au jeune ventriloque Jeff Panaclock. Ouais. Donc, découvreur de talent, Misraï, c'est peut-être ce qui va le plus te manquer.
Ben, c'est ce qui me manque le plus parce que j'en croise des mômes qui ont vraiment du talent et que j'ai pas la possibilité de leur mettre le pied à l'étrier. Parce que tous ces gens-là, moi, j'ai jamais fait ça pour gagner de l'argent, je fais ça pour pas en perdre, déjà. Et je suis fier d'avoir fait connaître ces gens-là au public. Je me suis pas trop gouré. Parce que je suis un artiste et que j'ai raisonné comme un artiste. Et que j'ai l'admiration pour ces types-là. Ils sont pas ingrats, je te rassure. Ils sont pas ingrats, tous ces gens-là.
Mais, Mais par exemple, Céline, que personne ne connaissait lorsque tu l'as choisie en 83.
Si, on la connaissait un petit
peu. En 83, assez peu. Peu, oui. Voilà.
Ah ben, dans le spectacle, quand moi j'étais en vedette avec Philippe Laville en Américaine, il y a des gens qui ne se souviennent même pas qu'elle chantait trois chansons en première partie. Hein.
Est-ce qu'elle te fait signe, non. Céline, lorsqu'elle vient en France?
Non, mais je n'ai pas envie de l'emmerder, moi, avec ça. J'ai pas envie. C'est leur truc, c'est leur vie à eux. On s'est vu une fois ou deux où elle me tombe dans les bras parce que elle a raconté dans son autobiographie que c'était la tournée où elle était devenue adulte. Mais elle a connu tellement d'autres choses depuis, tellement de trucs, c'est tellement une dimension.
C'est
surréaliste. C'est surréaliste pour moi de me dire, juste gamine posée sur mon épaule, derrière le rideau de l'Olympia, en lui disant, n'aie pas peur ma puce, ça va bien se passer. T'inquiète pas, moi l'Olympia, j'ai déjà fait 4 fois, ça va bien aller. De voir ça, et de l'avoir triomphé partout, comme quand on faisait les sketchs dans Fiesta, avec les Nous c'est Nous, et tous les mecs arrivaient dans mon bureau, alors on a trouvé cette connerie, ça volait pas où, etc.
Et ensuite, Jean Dujardin va chercher son Oscar.
Et que je suis tout seul chez moi à Martel, à 4h du matin, et que je regarde la télé, que je vois Jean aller chercher son Oscar, je me dis, putain, mais quand même, c'est déjà une chose, tout est possible. Je dis ça, s'il y a des mômes qui nous écoutent, qui ont des ambitions, qui rêvent, tout est possible.
Tout est possible.
Tout est possible.
Alors, maintenant, il y a une autre chose qui m'intrigue et j'espère que tu vas nous rassurer. Cet hiver, on a beaucoup parlé d'une gigantesque tournée du plus grand cabaret du monde dans tous les Zéniths de France à la fin. Ah, très bien. Alors, une tournée coproduite par TF1 avec une énorme logistique.
Ouais.
Tournée dont la billetterie, d'ailleurs, est ouverte.
Allez-y, réservez.
Pour un démarrage, n'est-ce pas, le 27 novembre au Zénith d'Orléans.
Le 27 novembre, c'est à Épernay, le deuxième à Amnéville. Et après, on enquille tous les gros zéniths, y compris on passe par Bruxelles, on passe par Genève le 31 décembre. Et puis on fait Nantes, Bordeaux, Marseille, Nice, tout ça.
Alors, concrètement,
avec des étapes incroyables.
Cette tournée, c'est un véritable barnum. Il va y avoir 80 personnes, n'est-ce pas?
Il y a 50 artistes et 30 techniciens. Je vais essayer de reproduire ce qu'il y avait dans le plus grand cabaret du monde. Sans les mecs aux tables, évidemment, parce qu'on n'a pas besoin des invités. Ce que les gens veulent voir, c'est le spectacle. Donc, il y a des acrobates, il y a des magiciens, il y a des trapézistes. Il y a mon ami Blanchard qui va faire, je peux te dire ce qu'il va faire. Il va nous faire un portrait de Johnny en 3 minutes. Et on va le donner à quelqu'un dans la salle, d'ailleurs, ce portrait de Johnny. Et il va y avoir des numéros de bascule. On va essayer de... C'est moi qui ai fait le programme. Le programme, il est fait. On a des danseurs magnifiques qui vont ouvrir le spectacle. Et puis, on va enquiller sur scène 14 numéros, c'est-à-dire 2 parties de 50 minutes. Et ça, c'est la première année. Parce qu'on a l'intention... Le plus grand cabaret du monde, c'est une marque qui m'appartient.
D'accord.
Et moi, je voudrais qu'il perdure après moi. Ça veut dire que je voudrais que cette tournée soit réussie, que les gens soient contents, pour qu'on puisse chaque année revenir en tournée avec des numéros différents, tout simplement. Et je sais déjà qu'on a 70 demandes pour l'année d'après, déjà.
Et on passera... Et ça peut s'exporter.
Oui, on a les droits sur le monde entier. On a des demandes de Chine, on a des demandes de Russie, voilà.
On peut parler un petit peu dessous, Patrick Sébastien, parce que Michel Drucker, paraît-il, a vendu sa société de production au groupe Expand.
J'ai jamais vendu la mienne.
Bon, tu ne l'as pas vendue.
Parce que je voulais garder ma liberté.
Parce que je crois savoir qu'il y a quand même pas mal de projets qui dorment dans les placards de Magic TV.
Ma société, elle est au point mort, elle est à zéro, elle n'a pas de bénéfices, elle n'a rien. On vit un petit peu sur ça, mais ce n'est pas grave. Je n'ai pas voulu vendre mon âme. Si quelqu'un veut me la racheter, il peut me la racheter. Il y a 10 000 séquences. J'ai 30 ans d'images qui m'appartiennent. Ça servira de toute façon forcément un jour.
On retrouve tout de suite Patrick Sébastien.
Europe 1. Il est 15h43 et vous écoutez Il n'y a pas qu'une vie dans la vie avec Isabelle Morizet et son invité, aujourd'hui Patrick Sébastien.
Patrick Sébastien, cette télé dans laquelle tu n'es plus, tu l'as éteinte Tu la regardes ou tu ne la regardes
bah si,
plus?
Je regarde, moi ça me plaît la télé. Mais je regarde pas la même chose, je regarde Netflix beaucoup, je regarde Apple. Quand il y a du sport, je regarde parce que le rugby m'intéresse, par exemple le Top 14. Il y a des documentaires formidables. Je regarde beaucoup Arte, parce qu'il y a des films de qualité. Après les envoyés spéciales et Élise Lucet, j'aurais confiance en elle le jour où elle fera un cache-investigation sur France 2. Quoi. C'est sur le fonctionnement de France 2.
Bon, mais là, je peux pas. Alors, ce livre, J'ai déplacé l'éléphant qui paraît chez Ixo. Je crois savoir que tu en as terminé la rédaction sur tes terres, dans ta propriété de Martel, dans le Lot, près de Brive-la-Gaillarde.
Ouais, j'avais commencé il y a un moment quand même.
Voilà, mais tu l'as achevé là. Ouais. Comment vis-tu à Martel? Qui sont tes amis? Quels sont les rituels?
Mais tu peux pas savoir. Là, tu sais que j'ai l'impression, depuis que je suis remonté à Paris, que je suis encore en confinement. J'ai dit ça à ma femme l'autre jour, j'ai dit, mais je suis plus confiné que chez moi. Chez moi, j'ai beaucoup de place. J'ai une maison à laquelle je tiens énormément. Je suis dans le calme, dans le silence. C'est ce que j'aime le plus. Et puis autour de chez moi, il y a ma copine Coco qui tient un café-théâtre qui s'appelle Côté Rocher, où il y a 100 personnes, où il y a les gens qui viennent se divertir. J'ai ma petite fille, Marie, qui habite là-bas. Et puis souvent, par contre, je m'en vais et je descends sur voir mes vrais potes à Carcassonne, à Béziers, à Tarascon. J'ai plein d'amis, des restaurateurs, des gens normaux, quoi, avec qui on passe des moments absolument formidables.
Voilà. Ex-rugbyman aussi.
Ouais, mais autrement, je suis pas du tout... je suis très seul. Tu sais, ma vie à Martel, chez moi, c'est d'écrire. Et puis le soir, vers 10h, je prends ma voiture et je fais à peu près 100 bornes en roulant sur les routes désertes. Et c'est là que les idées me viennent et c'est là que je profite du mouvement. Parce que j'ai besoin du mouvement pour écrire.
Ce livre, J'ai déplacé l'éléphant, bon, il distille au fil des pages...
Des phrases.
Voilà, des répliques truculentes.
Mais c'est pas que des répliques alignées, il y a la genèse de l'histoire à chaque fois.
Absolument, toujours, c'est dans le contexte. Mais il a donc il a le parfum en fait nostalgique d'un certain bon sens populaire à la Audiard ou à la Frédéric Dard. Mais cet esprit-là, Patrick, il s'est dissous. On ne l'entend plus dans les dialogues de films aujourd'hui. On ne le retrouve plus dans les pages des polars.
Si, quand même, si, on
faut retourner lire San Antonio pour retrouver ça.
Non, et puis je suis pas désespéré. Il y a les mômes, ils aiment bien ces répliques-là. Elles fusent encore dans les soirées. J'ai des mômes qui me font des très belles réflexions. C'est pas que avant. Le prochain livre, je vais même te donner le titre de mon prochain livre. Ça s'appellera C'était mieux après. Parce que j'ai trouvé ce titre récemment et j'ai trouvé ça très bon. Et ce sera un mélange de nostalgie et d'espoir. Parce que ces phrases-là, toute façon, c'est des phrases que j'ai dans le bouquin. C'est des phrases que on m'a dites, que j'ai entendues, qu'on m'a rapportées. Et c'est pas des citations connues, hein. C'est des vraies phrases de la vie. Et j'ai des chapitres, j'ai des mini chapitres de 6 pages où je parle de sujets aussi divers que l'amour, la mort, la maladie, le bonheur, etc. Et puis, il y en a plein qui sont consacrés à des personnes. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est consacré à Johnny, à Gainsbourg, à Carlos, des gens que j'ai croisés. Et les réflexions qu'ils me disent, c'est des réflexions qu'ils m'ont dites. Gainsbourg, il m'a dit, de la cigarette, je m'en fous. Cigarette, c'est dangereux, mais si je suis incinéré, au moins, j'aurais fait la moitié du boulot.
Voilà. C'est magnifique.
Johnny, il y en a des très belles. Il y en a une que j'aime beaucoup. Récemment, on fêtait ses 77 ans virtuels. C'est le soir de son enterrement où il y avait un vieux fan, un vieux biker qui m'a dit « Moi, je m'en fous qu'il soit enterré à Saint-Barthélemy. Ce qui m'intéresse, c'est où il va ressusciter. » Et c'est tellement joli. Alors, dans le bouquin, il y a des phrases jolies, il y a des phrases très drôles.
Ah, et puis il y en a de très profondes, par exemple. Celle-ci, qui est l'une de mes préférées. Ce qui est bien, quand on s'achète une bonne conscience, c'est qu'on en fixe soi-même le prix.
On en fixe, oui, parce que c'était un voyou.
Ça aurait plu à Frédéric Dard.
Oui, mais parce que c'était un voyou, mais parce que j'ai beaucoup de copains voyous de l'ancienne époque, toujours d'ailleurs, c'est toujours mes potes, et qui me disaient, quand tu vois le prix des agios, ça t'enlève les scrupules, voler des voleurs, c'est pas voler. Ils justifiaient les attaques de banque comme ça. Maintenant, mes copains voyous, je crois d'ailleurs que c'est eux qui m'ont donné la plus belle phrase pour résumer mon éviction de la télévision.
Alors c'est laquelle?
C'est « ils t'ont tué, mais c'est toi qui avais chargé l'arme ». Donc c'est pas complaisant et c'est très juste.
C'est consolant d'écrire, Patrick
Sébastien. Bien sûr, c'est une psychanalyse terrible. Et puis là, tu repars dans tes souvenirs. C'est une psychanalyse, c'est un truc qui a été essentiel dans ma vie. D'écrire derrière, il faut le jeter. Et je conseille d'ailleurs aux gens qui nous écoutent, même si c'est pas publié, il faut écrire. C'est vachement bien d'écrire, tu jettes ton âme en encre sur un papier. Moi, j'ai plein d'amis qui écrivent, qui ne seront jamais lus, mais qui écrivent, ça fait un bien fou. Et puis en plus, tu sais pourquoi j'aime le livre ? Parce que c'est le lien le plus intime que tu peux avoir quand tu es artiste avec une personne à qui tu veux passer quelque chose. Parce qu'un spectacle, ça se regarde à plusieurs. Un match de foot, ça se regarde à plusieurs. Un film, une télé, un bouquin, si quelqu'un vient lire derrière ton épaule...
C'est terriblement dérangeant.
C'est terriblement. Donc c'est le lien où tu es vraiment seul avec la personne. C'est le seul... Et j'aime l'objet. C'est vrai que j'aime pas les tablettes et tout ça. J'aime l'objet, le livre. Chaque fois que le livre arrive, tu as écrit un livre et qu'il arrive sur ta table, fini, c'est un bébé. Là, mon bébé, il a quelques jours seulement.
Voilà, et c'est le 18e, et il a pour titre...
J'espère bien que j'en ferai d'autres. Même s'ils se vendent pas, j'en ferai d'autres.
Il en fera d'autres. On retrouve tout de suite Patrick Sébastien.
Europe 1. Europe 1.
Eh bien, n'attendons pas pour découvrir la suite et fin de l'entretien d'Isabelle Morizet avec son invité Patrick Sébastien, qui fait paraître chez IXO « J'ai déplacé l'éléphant », des citations, des répliques qu'il a entendues ou qu'on lui a rapportées. Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
Patrick Sébastien, certains prétendent que la célébrité, eh ben, c'est comme la cigarette, fallait pas commencer. Alors, je voudrais que tu me répondes honnêtement. Est-ce qu'on parvient à s'affranchir du regard des autres quand on a goûté pendant 45 ans au sentiment d'invincibilité et même peut-être d'immortalité que donne la célébrité ?
Non, c'est pas la célébrité qui est importante, c'est la popularité.
Oui, mais ça, moi je te pose une question sur la célébrité.
Par moment, elle est chiante, la célébrité. C'est-à-dire que tu peux pas faire un pas, tu es obligé de faire des selfies. La célébrité, c'est pas ce qui... Quand je vois les gamins qui disent « je veux être célèbre », moi la célébrité, elle est intéressante. Pour que tu puisses, c'est un intermédiaire, c'est pour que tu puisses aller sur une scène, avoir du monde. Le plus beau mot de la langue des gens qui vont sur scène, c'est complet. Donc pour ça, t'es obligé d'avoir la célébrité. Mais la célébrité en elle-même, elle est pesante par moments, elle est très pesante.
Vieillir, ça te consterne, en fait.
Ah
c'est
ouais.
Une aberration de vieillir.
Bah évidemment.
T'as autre chose à faire que de vieillir, n'est-ce pas ?
Et puis les mecs, ils te disent, c'est dans la tête. Mais non, c'est pas dans la tête. Mets-toi devant la glace, tu vois, si c'est dans la tête. Ben non, c'est pas dans la tête. Et tu vois, moi, je regardais encore hier soir, je suis tombé sur un vieux truc qu'on avait tourné en 90. Putain, comment c'est passé ? Tu vois, comment t'as changé, tout ça. Bien sûr que c'était de la vieillesse, c'est un naufrage. Il avait raison, De Gaulle. Je crois que c'est De Gaulle qui disait ça. C'est un naufrage, bien sûr. C'est bon,
qu'il
ça
avait
t'empêche
emprunté,
pas.
En fait.
Oui, il a emprunté, oui.
N'est-ce pas, à Châteaubriand ?
Ouais. Mais c'est... Ouais, c'est pas bien. C'est pas bien. Moi, je préfère être pas jeune, parce que c'est chiant aussi. C'est entre les deux. Moi, j'aimerais bien avoir une 10 de moins, quoi. Elle est liée aussi dans mon bouquin. Quand tu travailles après 50 ans, que t'as mal nulle part, c'est que t'es mort. c'est comme ça.
Alors, si demain, une chaîne de télévision te fait signe, alors après avoir, pendant 35 ans, régné sur le divertissement populaire, tu auras envie de défendre quel genre de programme ? Allez, si une chaîne t'appelle.
Si une chaîne m'appelle, j'ai dit, prenez mon jeu, là, je ne peux pas forcément l'animer, mais prenez mon nouveau jeu, là, qui s'appelle Culture People, qui est un très bon jeu. Je vais le produire, je vais être derrière, vous allez trouver un bon animateur, et puis moi, je vais le briefer. Voilà,
c'est toi qui choisiras l'animateur.
Je ne sais pas, je choisirai. Ou j'aimerais bien présenter un truc comme ça, tu vois, parce que c'est moi qui l'ai fabriqué, de A à Z, ce jeu. C'est vrai, ça m'amuserait, pour tenter une expérience que je n'ai pas tentée. Maintenant, revenir présenter du divertissement.
Tu l'as proposé
d'abord,
dans des chaînes ou pas,
ça, non, pas encore. Ben, j'essaie de le proposer en ce moment. Mais je vais en faire un jeu de société de toute façon. Mais moi, bon, c'est bon, j'ai fait moi, des gens m'ont assez vu. Et puis je te dis, tu reviens pas, surtout quand t'es parti de cette manière-là. Non, j'ai quand même une fierté, quoi. T'es un clébard, on te met des coups de pompe, tu vas pas revenir lécher la main de celui qui t'a mis des coups de pompe.
Alors, je nuance la question. Faire l'acteur, comme la télé t'a permis de le faire avec des premiers rôles dans des téléfilms sombres, au parfum de polar, ça te manque, faire l'acteur.
Oui, parce que c'est pareil, on m'a fermé la porte. On m'a dit, c'est marrant, parce que c'est le jour où on m'a donné un prix d'interprétation. Au laurier de l'audiovisuel, j'ai eu un prix d'interprétation et ce jour-là, on m'a dit, vous ferez plus de téléfilms. Voilà, les gens de France, c'est toujours les mêmes. Non, ce que j'aime bien dans les téléfilms que j'ai fait avec Jacques Malaterre, c'est qu'on était responsable de tout. J'écris, je joue, j'écris. Ça m'intéresse.
Ouais.
Mais aller faire l'acteur pour l'acteur, là, je vais aller faire camping pour faire plaisir à Zoulé, puis parce que ça m'amuse de vivre. J'ai envie de vivre des trucs différents, mais je vais pas faire l'acteur, je vais pas commencer une carrière d'acteur à mon âge.
Non, mais
j'en ai peut-être pas les
possibilités. Tu avais pris plaisir à
et ça,
faire
c'est bien.
Ça.
Ah ouais, puis ça
tu
s'est bien passé.
Tu avais même entraîné d'ailleurs la star du barreau, ton ami Eric Dupond-Moretti devant les caméras des
Ouais, mais parce qu'on est de la même race. Tu sais très bien que Eric, c'est un rebelle, c'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense. Moi, je suis de cette race-là. Donc, il y a des moules dans lesquels tu peux pas rentrer. Ils nous feront pas rentrer là-dedans. Sans animosité, c'est pas notre monde. Moi, des scénars, j'en ai plein. J'aimerais bien qu'on me dise, putain, mais fais-le, ça. Je sais qu'il y a une série qui est sur TF1, là, ils ont proposé, Azoula a proposé une série sur TF1 avec moi, d'un personnage que j'ai inventé moi, ça pourrait peut-être m'intéresser, mais voilà. À condition qu'il n'y ait pas trop de code. Et parce que c'est pas mais de l'animation de variété, divertissement. Non, par contre, j'aimerais bien qu'on me fasse une émission spéciale, je dis, avec un animateur, que ce soit Nikos, que ce soit Anna qui présente, où je pourrais venir avec mes musiciens, mes nouvelles chansons, et chanter, et faire foutre l'ambiance, parce qu'on sait quand même le faire, ça. Et le titre qui va sortir, là, c'est On dégoupille, c'est bien pour danser. Hein. Et je vais demander aux gens, d'ailleurs, de faire des clips avec leur téléphone, et on va faire le clip avec ce que vont m'envoyer les gens. S'ils se mettent, faut pas qu'ils se mettent en danger, mais ils peuvent dégoupiller bien.
Bon, on adore répéter que les cordonniers sont les plus mal chaussés, que les marchands de bonheur sont rarement les plus heureux. Toi, tu l'as vraiment déplacé, l'éléphant.
Ouais, je l'ai déplacé, mais je l'ai fait toute ma vie, ça. Ça vient de ma mère. Tu restes debout, quoi qu'il se passe et quoi qu'il arrive. Je me suis fait pourrir pendant 40 ans, je me suis fait traiter de bouffe. On peut tout me dire, moi j'ai pas d'association pour me défendre. Ça m'a pas mis à terre. On peut me toucher, on peut me bouleverser. Pour me faire tomber, il va falloir me mettre une balle dans la tête. Parce que c'est comme ça, parce que c'est ma nature.
Plus peur de rien, Patrick Sébastien.
Non, je n'ai plus peur de rien. Si, bah si. J'ai peur de ce qui peut arriver à
ce
que j'aime.
Aimes.
Voilà, c'est tout. Ma seule crainte et ma seule terreur aujourd'hui, c'est qu'il arrive quelque chose, parce que je l'ai vécu, qu'il arrive quelque chose à mes enfants, à ceux que j'aime, à mes amis. Voilà, c'est tout. La terreur, elle n'est pas pour moi. Moi, je sais que j'y vais tout droit. Moi, je sais que je vais vers la maladie, je vais vers l'accident. Je le sais, on le sait. On le sait, donc ça ne me fait pas peur, c'est programmé. Mais pour les autres, ça m'emmerderait, quoi. Chaque fois, c'est ça qui me fait peur. Après, le reste, j'ai peur de rien. Très, très paradoxalement, j'ai des petites peurs sur des... Je suis claustrophobe, tu vois, sur des conneries comme ça. Sur du léger. Par contre, sur du très grave, j'ai jamais peur.
Philosophe. Bon, j'ai déplacé l'éléphant, vient de paraître chez XO. La gigantesque tournée du plus grand cabaret s'offre à tous les zéniths de France, voilà.
Et la pièce avant, louis16.fr, qui est une connerie monumentale.
Ça y est, elle va être montée.
Ah ouais, elle part en octobre.
Pièce que tu as écrite.
Ouais, pièce que j'ai écrite, c'est le 14 juillet 89.
Mais hyperactif.
C'est le 14 juillet 89 avec les Gilets jaunes. C'est très très drôle. C'est vraiment très... C'est en costume, cette mise en scène par Olivier Lejeune.
Elle sera jouée où? Quel théâtre?
Partout en province. Parce que je ne veux pas venir à Paris. On est partout en province, on a déjà 40 dates ou 50 dates jusqu'au mois
de juin. Mais en fait, tu es plus occupé qu'à l'époque où tu faisais le plus grand cabaret sur France 2 et les années bonheur.
J'ai toujours été occupé, à part que j'avais ce petit truc en plus.
Voilà. L'album Entre nous est toujours dans les bacs.
Ouais,
et
mais c'est
sort...
le nouveau qui vient. Voilà. On dégoupille.
On dégoupille.
Et alors, ceux qui m'aiment bien, parce que tu sais, ma règle, c'est ceux qui ne m'aiment pas, je m'en prends. Mais alors, à un point, tu ne peux pas savoir. Par contre, ceux qui m'aiment bien, je ne veux pas les décevoir. Donc ceux qui aiment bien les sardines, la fête, le machin et tout, ils vont se régaler. Parce que là, j'ai vraiment fait un truc pour eux.
Bon, on n'a rien oublié de se dire.
Si, je t'aime, mon chéri. Voilà.
Je prends, moi aussi. Très bel été, Patrick. À très vite.
Et très bel été à toi, ma puce.
Bon, c'était N'y a pas qu'une vie dans la vie. Et Isabelle Morizet revient bien sûr dès demain, 15h sur Europe 1, en compagnie de l'actrice Emmanuelle Béard, à l'occasion de la parution du double album hommage à son père, de Béard à Béard. Mathieu Noël arrive pour le meilleur de son équipée sauvage. C'est juste après les infos.